Lutte pour le territoire. Voix de femmes en résistance. À l'écoute de la clameur de la terre-mère, qui tremble sous le poids des machines destructrices, des femmes se portent à la défense de la vie et du territoire partout sur la planète.
Mujer defensora de la madre tierra,
defensora de derechos humanos, defensora del territorio.
Alem defender women rights, defender
feminista.
Yaşam hakkımızı savunmaya çalışıyoruz.
Defensora de la vida.
Indígena, periodista comunitaria.
Guerreras indígenas de Rondônia.
Mocoba espaço e lo
guardianas de los recursos.
Épisode 6. Vaincre la bête.
Montaña soy, sol y trueno. Lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte?
Dans les capsules précédentes, les graves impacts des mines, des barrages ou de l'industrie agrotoxique ont été mis en lumière, ainsi que les tactiques utilisées par les entreprises, les gouvernements et les forces armées pour imposer ses projets de mort sur les territoires. Cet épisode tentera de rendre visibles les différentes stratégies des peuples du monde qui luttent contre les méga-projets. Les femmes en résistance partageront certaines des tactiques qu'elles mettent en place pour abattre la bête extractiviste. Elles tisseront une courte pointe des luttes collectives contre le pillage et la destruction systématique causées par les entreprises multinationales. Les batailles menées par ces femmes varient selon le contexte, mais elles ont toutes des points communs que nous explorerons dans cette capsule. Giovanna Davalos, féministe et défenseur des droits humains au Mexique, analyse les stratégies diverses mises de l'avant par le réseau mexicain des personnes affectées par l'industrie minière, la REMA.
Normalmente tenemos varios como frentes de batalla. Uno pasa por el tema político.
Nous luttons sur plusieurs fronts. L'un d'eux est le front politique. Il s'agit de dévoiler les conflits d'intérêts qui peuvent exister, de mettre en lumière le rôle de chacune des parties prenantes dans le processus, pour ensuite dénoncer publiquement ces conflits et exercer de la pression politique. Un autre aspect est la stratégie juridique. Et finalement, le dernier front est celui de l'organisation, l'aspect plus social, l'organisation de l'ensemble du mouvement en fait. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce muscle social qui va réellement faire en sorte que le projet ne s'installe pas sur un territoire. Au-delà d'une poursuite judiciaire gagnée ou d'un jugement rendu en faveur des communautés, il n'y a rien de tel que l'organisation.
Ganada o un caso cerrado a favor de las comunidades, no hay nada como la organización.
Une des stratégies de résistance est donc celle de l'incidence politique. Elle peut avoir lieu dans différents espaces de pouvoir où se jouent des conflits d'intérêts, comme dans l'académie par exemple. Le milieu universitaire est parfois coopté par des entreprises privées. Ainsi, de nombreuses recherches, études et enseignements favorisent les intérêts de la machine extractive et du modèle néolibéral. Nelly Huracán Morales explique comment le Comité paysan de l'Altiplano, CCDA, au Guatemala, agit pour changer ses rapports de pouvoir, afin que, par exemple, la formation en agronomie ne soit plus dictée par les intérêts des entreprises de monoculture.
Nous nous sommes intéressés à certains outils qui existent déjà, comme l'académie par exemple. Il y a une seule université publique au Guatemala et seulement les 1% de la population totale a accès à l'éducation supérieure. Donc ce sont des espaces que nous pourrions utiliser en faveur des peuples, des espaces plus scientifiques et académiques. Les CCDA travaillent justement la question de la reprise du pouvoir, pas seulement dans les structures gouvernementales, mais aussi dans tout type d'espace de prise de décision. En ce moment, nous avons déjà une influence directe dans l'université et nous faisons la promotion d'une réforme universitaire.
Ce travail dans les espaces de pouvoir doit également être accompagné d'autres types de tactiques. Comme nous l'avons appris dans le dernier épisode, les entreprises et les gouvernements possèdent un arsenal légal pour criminaliser quiconque se place sur leur chemin. Des communautés en résistance peuvent, elles aussi, utiliser des stratégies judiciaires afin de protéger leur territoire contre la destruction. Dans la région de Artvin, en Turquie, le recours aux tribunaux a permis d'empêcher une entreprise canadienne de mettre en péril la souveraineté alimentaire de la population. Nourneshe Karahan, présidente de l'association Artvin Vert, raconte comment différents aspects de la bataille se sont déployés simultanément, tant au niveau politique, judiciaire et social.
Pominko hem bilim insanlarının burada madencilik.
Quand on luttait contre la première entreprise minière canadienne, la Cominco, on a réussi à la faire partir grâce à deux stratégies principales. Premièrement, nous avons mobilisé l'appui de plusieurs scientifiques et académiques qui ont pu produire des rapports et documenter les graves impacts que causerait tout type d'activité minière dans la région. Il y a eu aussi des manifestations constantes, des rassemblements, des pétitions. Donc, il y avait vraiment une forte mobilisation locale et, en plus, nous avions la science de notre côté. En 2005, nous avons commencé le procès et nous l'avons gagné en 2008. L'entreprise minière est allée en appel, mais la Cour de l'instance supérieure a rendu un jugement final en notre faveur en 2009. Donc, ça a été une victoire définitive. Encore une fois, le fait qu'on ait pu collaborer avec des scientifiques et des universités et qu'on ait pu compter sur une résistance locale forte et soutenue à travers toute la ville, c'est ce qui a vraiment pesé dans la balance pour qu'on gagne cette bataille légale.
Mais à cause du déséquilibre évident entre ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent d'un côté et les populations affectées de l'autre, les stratégies judiciaires ne fonctionnent pas toujours. Peu importe leur discours de responsabilité sociale, peu importe les quelques normes qui réglementent leurs actions, les entreprises agissent souvent dans l'impunité et laissent toujours des séquelles. Giovanna Davalos rappelle qu'aucune indemnisation monétaire ne peut compenser la destruction des rivières et des plantes ou la détérioration des relations entre les êtres humains.
Nous ne négocions pas avec les minières parce que nous croyons que la vie ne se négocie pas. Nous ne croyons pas à la justice restaurative parce qu'il n'y a aucun dédommagement possible une fois que le mal est fait.
Malgré les tentatives de la part des industries de diviser les communautés et de briser leur tissu social, les peuples en résistance savent que c'est en s'unissant qu'ils pourront vaincre la bête. Les leaders paysannes et autochtones s'organisent avec leur collectivité afin de protéger la Pachamama. C'est ce dont témoigne Élie Lopez dans le contexte de la lutte contre des centaines de projets hydroélectriques en territoire Mapuche au soi-disant Chili.
Au final, ce qui a donné le plus de résultats dans notre stratégie de défense, ça a été de nous organiser. Le fait d'être là, ensemble. Maintenant, chaque fois qu'on nous avise d'une intervention, d'un projet qui veut s'installer, nous sommes dans la rue pour l'en empêcher. Avec toute notre force, avec des bâtons, des pierres, prêtes à tout affronter. Nous sommes toutes là, femmes, hommes et enfants. Nous toutes, nous tous, qui sommes contre ces projets.
Qui sont vraiment ces entreprises? Comment et pourquoi arrivent-elles sur les territoires? Pour les communautés en lutte, il est nécessaire d'exposer les véritables intentions de ce monstre destructeur. Les graves conséquences que les mégaprojets laissent derrière eux sont méconnues de la population, et ce manque d'informations rend la résistance difficile. C'est pour cela qu'il est essentiel de se renseigner sur les projets qui veulent s'imposer sur les territoires et qui arrachent ainsi la vie des communautés. Pour Elsa Mermakawa, de l'Association des femmes défenseurs du territoire et de la culture Kana au Pérou, il s'agit d'une des stratégies principales pour construire une compréhension collective et ainsi s'organiser.
Nous sommes une organisation qui informe les gens. Nous effectuons des congrès, des rencontres, des ateliers, tout ça pour informer sur les actions de l'entreprise minière. Nous sommes toujours dans les mobilisations, les marches, pour demander qu'on reçoive les soins nécessaires pour notre santé.
Dans un contexte où les médias commerciaux transmettent de l'information déformée, Bernadette Monteiro, de la Marche mondiale des femmes au Brésil, croit elle aussi que les processus collectifs permettent de renforcer les communautés affectées et de sensibiliser la population en général.
Nous sommes en train de construire l'auto-organisation. Nous collaborons avec d'autres mouvements populaires et nous créons des processus de formation. Mais nous construisons aussi nos propres moyens de communication, comme des journaux, des programmes de radio, des vidéos pour dialoguer avec la population plus largement.
Les grandes entreprises transnationales ont différentes tentacules pour prendre possession des territoires et détruire sans contrainte. Les médias commerciaux sont une de ces tentacules, à travers lesquels les entreprises font miroiter les supposés bénéfices de leur intervention. Les médias diffusent aussi des campagnes de diffamation contre les personnes qui osent démasquer le vrai visage de ces méga-projets. Les communautés conçoivent donc des médias alternatifs pour s'opposer à cette bête, comme le raconte Norma Sansir, journaliste communautaire du peuple Tchorti au soi-disant Guatemala.
La communication en el movimiento social indígena y campesino es necesaria.
La communication pour le mouvement social autochtone et paysan est nécessaire. Les peuples autochtones n'ont pas accès aux moyens de communication. Pourtant, c'est un droit. Donc, la communication communautaire, populaire, alternative qui existe présentement au Guatemala est nécessaire pour diffuser les luttes et les demandes des premiers peuples et du mouvement social. Aujourd'hui, la population autochtone est en résistance pour protéger le territoire et la terre-mère.
Para proteger el territorio, la madre tierra.
En plus de la nécessité de se réapproprier les moyens de communication, de nombreux peuples autochtones expriment l'importance de revaloriser les cosmovisions ancestrales. Ces spiritualités, que la colonisation a si violemment essayé de faire disparaître, sont aussi un élément clé dans la défense de la terre-mère. C'est ce que propose Léonice Toupari, qui lutte pour l'émancipation des femmes autochtones et pour la défense du territoire contre les méga-projets dans l'Amazonie brésilienne.
Une des stratégies possibles que je vois, c'est les spiritualités des peuples autochtones, qui nous permet d'être plus unis. Les expériences d'autres peuples autochtones sont inspirantes aussi, comme le journalisme communautaire, par exemple, auquel on commence à s'intéresser.
Coisa que a gente está começando a pensar, né?
Les luttes des peuples opprimés ont leurs racines dans une histoire de dépossession que nous approfondirons dans le prochain épisode. C'est pour cette raison que de nombreuses communautés autochtones, afro-descendantes, paysannes, traditionnelles, revendiquent leur autodétermination depuis la mémoire historique. Pour ce faire, ils reprennent contact avec les spiritualités et les savoirs ancestraux, transmis par les aînés. Plusieurs communautés Anishinaabe se sont engagées dans ce type de démarche pour prendre soin du territoire sous leur propre gouvernance, comme en témoigne Shannon Chief du clan du Loup.
J'ai réuni nos gardiennes et gardiens du savoir de toutes nos nations Anishinaabe dans les communautés. Nous avons discuté et ils et elles nous ont transmis toutes leurs connaissances au sujet de nos territoires, de la forêt et tout. Elles et ils nous ont dit que nous devrions recommencer à utiliser nos savoirs traditionnels plutôt que de nous inscrire dans le cadre et les façons de faire imposées par le Canada. Les gardiens et gardiennes ont donné de nombreuses recommandations, dont celle de restaurer le parc de la Vérendrye comme un espace de préservation de la faune et de la flore, afin que ce qu'il reste, ce qui n'a pas encore été coupé par les entreprises, soit préservé et que la nature reprenne sa place. Nous devrions aussi instaurer une entente pour protéger les animaux qui s'y trouvent, afin que ce soit notre peuple qui veille sur ce que nous avons.
Cette dépossession historique a aussi eu comme cible les corps des peuples qui ont souffert de la colonisation, particulièrement les corps identifiés comme féminins. C'est pourquoi Lorena Kamnal, femme Maya Kakshi et Shinka et membre du réseau de guérisseuses ancestrales, croit que le bien-être de la terre-mère est intimement lié à la guérison du corps et de l'esprit de celles qui la défendent.
Nous avons tellement souffert. C'est pour cela qu'en tant que femme, en toute dignité, on revendique la vie, on revendique la joie, le plaisir, le bonheur, les érotismes, c'est-à-dire tout ce qui nous a été nié par tant d'oppressions patriarcales sur notre corps et sur la terre. C'est pourquoi nous avons commencé à parler du concept de la défense de mon premier territoire, corps, à cause des multiples violences sexuelles, du harcèlement, de toutes les manifestations de violences machistes.
Même si la bête est en mouvement, prend de l'expansion et attaque sur plusieurs fronts, les batailles menées par les peuples qui l'affrontent sont elles aussi vastes et diversifiées. Les soulèvements des peuples s'entrelacent avec cette conscience que tous les êtres vivants, nous vivons sous un même toit. Une magnifique planète que nous avons négligée et que l'extractivisme détruit jour après jour. À chaque déversement minier ou pétrolier, à chaque tour de turbine hydroélectrique, à chaque territoire volé pour construire un hôtel de luxe, à chaque semence arrosée de pesticides. Les femmes et leurs communautés proposent des actions locales et globales pour construire un monde meilleur. Pour Nady Huracán Morales, il est clair que cette lutte doit être collective.
C'est une lutte au niveau mondial. Les femmes défenseurs de la mère Terre sont nombreuses. Surtout, les pratiques d'unité et d'articulation que nous, les femmes, réussissons à mettre en place doivent donner l'exemple à d'autres organisations de défense des territoires. Nous pouvons faire des actions communes au niveau mondial pour avoir plus d'impact. Nous pouvons envoyer le message aux transnationales et aux capitales étrangers qui, tout comme eux, qui travaillent main dans la main pour s'imposer dans nos communautés, eh bien, nous aussi, nous avons décidé de nous unir pour les affronter ensemble.
Selon Valérie Ivy Hamelin, porteuse d'eau Mi'kmaq, nous devons toutes et tous entrer dans le mouvement pour sauver la Terre-Mère.
Oui, c'est l'union, unir le plus de gens possible ensemble, conscientiser le plus de gens. Ben, parce que moi, la seule solution que je vois, c'est un soulèvement de masse. C'est une obéissance civile de masse. Je vois pas d'autre solution.
Et même si les projets destructeurs ne connaissent aucun répit, les peuples en lutte sont toujours debout. Les stratégies des communautés pour vaincre la bête continueront d'avancer entre les champs et les villes de la planète. En tissant la vie, en tissant les rêves et les espoirs, les femmes en résistance nous rappellent qu'un autre monde est possible. Ne manquez pas le prochain épisode de Lutte pour le territoire, voix de femmes en résistance. Saca tus manos y mente de mi cuerpo, mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre, la mano la guarda, cuidadito conseguirme. Miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Merci aux artistes pour la musique. Sœur Nibi, Mo Clark, Kwesh Kiwe, Orchestra de Instrumentos Andinos del Resguardo de Huellas, Huesha Kiwe, Tribade. Une production du Comité pour les droits humains en Amérique latine, CEDAL. Pour écouter nos prochains épisodes, rendez-vous sur notre site internet www.cdhal.org.